Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 4 proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette session de sensibilisation consacrée à l'égalité professionnelle. Je suis très bien entouré aujourd'hui avec Pia Voisine, Florian Colombi et Inès Fontelas. Pia, c'est à toi.
Alors, comme vous le savez peut-être, la réglementation en matière d'égalité professionnelle est foisonnante. On a parfois un peu de mal à s'y retrouver et elle évolue assez régulièrement depuis quelques années. Donc parfois, on s'y perd un peu. Donc là, l'objectif de cette réunion, alors n'est pas de vous faire un cours magistral détaillé, de vous donner un précis de la réglementation sur l'égalité homme-femme, mais d'avoir un panorama complet de tout ce qui existe. Pour que vous ayez bien conscience de cette accumulation de règles et avoir bien en tête toute la réglementation en vigueur par thématique et par type de dispositif pour creuser de votre côté dans un second temps et voir ce à quoi vous devez penser, notamment ce à quoi l'employeur doit penser lorsqu'il envisage de traiter les questions d'égalité professionnelle. Alors qu'il veuille le traiter de manière volontaire ou que simplement il veuille respecter la loi qui comporte beaucoup de dispositions. Ensuite, on fera un petit bilan de l'application des règles pour voir globalement si c'est efficace, si ça fonctionne, si ça se traduit concrètement par des mesures sur le terrain. Et puis ensuite, nous verrons que il est à craindre ou à attendre de nouvelles évolutions de la réglementation. Donc, il faut voir ce qu'on doit envisager, anticiper. Pour l'avenir et un avenir extrêmement extrêmement proche, vous allez le voir. Et puis nous vous laisserons ensuite, une fois toute la présentation de toutes ces rubriques faites, nous vous laisserons poser vos questions et tâcherons d'y répondre. Alors si ce n'est directement aujourd'hui, en tout cas nous en prendrons note pour vous répondre ultérieurement, le cas échéant. Voilà, donc je laisse mes camarades prendre la parole pour notamment commencer la présentation du panorama des règles en vigueur en matière d'égalité professionnelle.
Merci Pia. Donc, comme tu l'as souligné dans un premier temps, donc, nous allons dresser un panorama le plus exhaustif possible des obligations des employeurs en matière d'égalité professionnelle. Donc, dans la présentation, nous avons essayé de regrouper donc, les différentes règles légales par type d'obligation, de dispositif pour l'employeur. Comme vous allez le constater, donc, il y a un pléthore d'obligations, souvent disséminées dans plusieurs parties du Code du travail, donc à tel point qu'il est difficile de s'y retrouver. Donc, tout d'abord, les discriminations interdites donc, par le Code du travail, en commençant donc, par une interdiction de discriminer en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse. Donc, que ce soit dans les offres d'emploi, mais également lors du recrutement, donc pour une embauche, également pour les mutations professionnelles, en cas de résiliation ou de refus de renouvellement d'un contrat de travail. Et également, l'employeur donc ne doit pas discriminer en considération du sexe pour toute mesure qu'il prendrait, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation professionnelle, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle. Donc ensuite, il y a une autre obligation donc pour les employeurs, qui est une obligation générale d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc, avec la formulation que vous connaissez peut-être, pour un même travail ou un travail de valeur égale, donc l'employeur doit assurer donc une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'est ce qui est prévu donc à l'article L 3221-1 du Code du travail. Et donc des sanctions sont prévues par le Code du travail, Donc en cas de discrimination salariale, avec du coup des conséquences juridiques, la nullité des actes pris en considération du sexe, et potentiellement donc un droit à rappel de salaire pour le salarié ou des dommages et intérêts. Donc dans un tel cas, un salarié pourrait donc potentiellement donc demander des explications à l'employeur et donc réclamer un alignement de rémunération. Donc faute de quoi le salarié pourra potentiellement donc saisir le conseil des prud'hommes pour dénoncer une rupture d'égalité salariale. Donc ensuite on a voulu quand même vous rappeler d'autres obligations donc légales pour les employeurs. Donc il s'agit donc des mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Donc tout d'abord pour vous rappeler les règles s'agissant donc des agissements sexistes. Donc c'est une règle légale qui a été introduite dans le Code du travail par la loi du 17 août 2015. Et elle prévoit donc une interdiction totale donc des agissements sexistes en entreprise, avec une définition prévue à l'article L1142-2-1 du Code du travail. Donc tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Donc ensuite, l'employeur a aussi une interdiction doit veiller à ce qu'aucun salarié de l'entreprise ne subisse donc soit des faits de harcèlement sexuel. Donc on a les définitions là qui sont affichées dans les slides. Et donc l'employeur doit impérativement prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir donc ces faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Donc à noter que le salarié a la possibilité de former un recours devant le conseil de prud'homme et également un recours en matière pénale s'agissant du harcèlement sexuel. Alors, petite précision, donc selon la Cour de cassation, le harcèlement sexuel est constitutif d'une faute grave. Une autre précision donc apportée par la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, donc dans un arrêt du 18 janvier 2023, donc concernant donc cette obligation de sécurité de l'employeur qui a été évoquée. Donc vis-à-vis du salarié, il s'agit en effet donc d'une obligation de sécurité de résultat. Il s'agit d'une obligation de sécurité de moyens, et non pas une obligation de sécurité de résultat. Et c'est dans la continuité donc de la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc mais également pour vous signaler donc du coup qu'un webinaire sera prochainement présenté, organisé donc par le MEDEF sur la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles au travail. Donc ce sera le 23 novembre 2023. Je ne sais pas si Gauthier, tu veux rajouter quelques éléments.
Non, bah, ce sera dans le même format. Qu'aujourd'hui.
Voilà. Ce sera l'occasion de creuser un peu plus le sujet.
Il s'inscrit en fait dans le cadre de la semaine du 25 novembre, qui est la semaine de mobilisation contre les violences faites aux femmes. Voilà.
Donc ensuite, concernant donc les obligations de transmission d'informations par l'employeur sur l'égalité professionnelle, donc on a tout d'abord les informations consultations obligatoires annuelles donc du comité social et économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi concernant donc les entreprises de plus de 50 salariés. avec un volet donc portant notamment sur l'égalité professionnelle et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises qui n'ont pas d'accord égalité professionnelle. Alors les informations donc sur l'égalité donc donc il y a une obligation donc de mettre à disposition donc des membres du CSE donc les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise sur la l'accord égalité professionnelle ou à défaut d'accord sur le plan d'action élaboré par l'employeur. Donc à noter également que l'assistance donc de l'expert comptable est possible, il est rémunéré par l'entreprise donc au titre de cette consultation.
Donc là c'est vraiment des données relatives au salaire, c'est ça ?
Il y a plein de
pas uniquement.
Il y a plein de données sur les conditions de
travail, les absences pour maladie, les mutations. Enfin, c'est vraiment très précisément défini par la partie réglementaire du Code du travail. Donc, il s'agit d'avoir un maximum de données, de données comparées sur toutes les conditions de travail des salariés, répartition des postes dans les classifications par sexe, absentéisme, niveau de rémunération, enfin voilà, toutes les données sociales sont examinées à l'aune de la comparaison entre les sexes. Voilà.
Oui, tout à fait. Donc les informations sur l'égalité professionnelle donc doivent notamment permettre donc aux représentants du personnel et à l'employeur donc de d'émettre un diagnostic, de pouvoir dresser une analyse de la situation respective des femmes et des hommes par catégorie professionnelle. Donc, comme l'a dit Pia, dans plusieurs thématiques. Donc, là, j'avais la liste sous les yeux. Donc, en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, sur l'analyse donc des écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification, de l'ancienneté, également en ce qui concerne l'égalité, donc sur les évolutions des taux de promotion respectifs entre les hommes et les femmes par métier. Au sein de l'entreprise, et la part des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration. Alors ensuite, donc on a voulu également rappeler l'obligation d'information dans la base de données économique et sociale et environnementale sur les sujets d'égalité donc pour les entreprises de plus de 50 salariés, donc information à destination donc, des représentants du personnel, avec notamment la présence d'indicateurs donc relatifs à l'égalité professionnelle. Les représentants du personnel sont également informés donc de la méthodologie employée et voilà du contenu de notamment des informations relatives à l'index.
Oui, en précisant qu'en réalité
le Code du travail prévoit que la BDSE sert de base d'information, de source d'information pour, dans le cadre de l'information consultation annuelle du CSE. Donc en réalité, les informations communiquées dans le cadre de la consultation du CSE figurent, sont reproduites dans la, sont incluses et reproduites dans la BDSE.
Donc oui, le CSE donc a accès aux informations que comporte l'index égalité. Et les informations donc relatives à ces sujets donc prennent la forme d'indicateurs principalement constitués de données chiffrées. Donc ensuite, la dernière obligation de transmission d'informations qui a été identifiée, celle-ci est à destination de tous les salariés de l'entreprise. Donc il s'agit de l'obligation d'affichage des dispositions du Code du travail, donc relative à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Alors, il faut faire cet affichage donc soit sur les lieux du travail et dans les locaux d'embauche des salariés. Il est toutefois possible donc de remplacer cet affichage donc par une communication pour les personnes ayant accès au lieu de travail et aux candidats. Enfin, qui n'ont, voilà.
Oui, par exemple, des commerciaux qui sont pas dans les bâtiments, ça en affiche ça dans la voiture, quoi.
Notamment.
Ça peut être transmis.
Alors, à savoir donc que le code du travail, le code du travail, donc prévoit une amende financière en cas de non-respect de cette obligation.
Alors, on a une petite question en fait. Donc, il y a beaucoup d'éléments à rassembler. Je suppose qu'on peut trouver facilement des outils qui permettent aux entreprises de rassembler ces éléments plus facilement, peut-être sur le site du ministère du Travail, non ? Vous savez pas si, par exemple, des fichiers Excel,
C'est bien le problème. Alors oui, peut-être qu'effectivement le ministère du Travail publie parfois des fiches thématiques, soit sur le site du gouvernement, enfin du ministère du Travail, soit sur servicepublic.fr. Mais là, voilà, notre objectif, c'était de vous indiquer à peu près les sources, de vous faire un regroupement de toutes les sources possibles et imaginables sur le sujet, qui sont malheureusement disséminées, comme le disait Florian, dans tout le code du travail. Donc là, on essaie de vous faciliter la tâche. Mais à ma connaissance, voilà, à part effectivement dans les bases de données telles que l'AmiLine, il y a peut-être aussi un travail de l'identification et de didactique pour vous permettre de retrouver toutes ces sources. Mais je n'ai pas là en tête une référence directe que je peux vous fournir clé en main, quoi. Mais là, le but de cette première présentation, c'est de vous faire prendre conscience de tout ça et de vous donner un document, de vous mettre à disposition ce diaporama simple pour déjà vous aider à retrouver toutes les dispositions dans le code du travail.
Et de rien oublier.
Alors, s'agissant donc des obligations relatives à la mise en place de plans d'action, donc on a regroupé là toutes les obligations légales pour les employeurs qui nécessitent une action de l'employeur, la mise en place de prendre des mesures. Donc dans cette diapositive, donc on a fait le choix de se concentrer uniquement sur les obligations de l'employeur, donc de l'obligation de négociation au niveau de l'entreprise. Alors, toutefois, il y a évidemment donc des négociations sur l'égalité professionnelle au niveau de la branche. Donc, diverses dispositions sont prévues pour prendre en compte l'égalité professionnelle et ainsi réduire les écarts entre les femmes et les hommes dans les branches. Donc, à noter que les dispositions de l'accord de branche sur l'égalité, donc si elles sont applicables à l'entreprise, donc s'imposent aux accords d'entreprise conclus antérieurement ou postérieurement, sauf si l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Alors, s'agissant de la négociation d'entreprise, donc il y a deux obligations de négociation périodique qui touchent le sujet de l'égalité professionnelle. Donc tout d'abord, la négociation périodique sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Alors, il s'agit d'une obligation donc d'engager une négociation donc sur l'égalité professionnelle, qui va notamment porter donc sur la suppression des écarts de rémunération et la qualité de vie et les conditions de travail. Donc à noter qu'il s'agit bien d'une obligation d'engager et non pas une obligation d'aboutir à un accord. Concernant donc la périodicité donc de cette obligation d'engager une négociation, elle est soit annuelle, donc c'est ce qui est défini par défaut dans le code du travail, avec une possibilité toutefois donc d'établir une périodicité différente par accord collectif, donc sur une période d'au maximum 4 ans. Concernant donc le champ d'application donc des entreprises concernées par cette obligation, il va s'agir donc des entreprises qui vont soit être constituées d'une ou plusieurs sections syndicales dans lesquelles au moins un délégué syndical est désigné, donc dans les entreprises de plus de 50 salariés, ou alors des entreprises avec moins de 50 salariés, dès lors qu'un membre de la délégation élu du personnel au CSE est désigné en tant que délégué syndical. Alors, il y a également donc une seconde obligation d'engager une négociation périodique, cette fois-ci sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Mais nous l'avons quand même inclus dans cette diapositive parce que le sujet de l'égalité femmes-hommes est également abordé lors de cette négociation périodique, notamment sur le suivi de la mise en œuvre donc des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur les différences donc de déroulement de carrière et d'évolution de carrière entre les femmes et les hommes. Alors, pour information, sur ces deux négociations, il s'agit des mêmes règles d'application, que ce soit au niveau de la périodicité ou du champ d'application. Donc, les règles sont prévues donc à l'article L2242-15 du Code du travail. Donc, ensuite, toujours sur des obligations donc relatives à la mise en place de plans d'action, en rentrant dans le détail du contenu de l'accord collectif sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, avec tout d'abord donc une possibilité de fixer le contenu de la négociation donc par un accord d'adaptation, à condition de respecter certains critères. Donc, l'obligation de que cet accord d'adaptation donc porte à minima sur des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, sur les objectifs de progression portant sur la rémunération effective et les actions permettant de les atteindre, et enfin sur les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre. Donc, il y a une règle donc supplétive, donc en l'absence d'accord d'adaptation conclu au sein de l'entreprise, avec un contenu un minimum impératif qui est prévu par le Code du travail. Alors, le Code du travail donc impose de définir donc des objectifs et des mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle, donc au travers de différentes matières, on va dire différentes thématiques. Donc, tout d'abord, la suppression des écarts de rémunération, l'accès à l'emploi, la formation professionnelle, le déroulement des carrières, la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi, avec un axe principal autour des salariés à temps partiel, problématique qui touche notamment donc les femmes. Donc la mixité des emplois et enfin le maintien de l'assiette de cotisation retraite pour les salariés à temps partiel. Donc toutes ces mesures et objectifs donc sont prévues à l'article 2242-17 du Code du travail. Alors, toujours sur le contenu donc de l'accord collectif sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc il y a le Code du travail donc prévoit je vois que l'accord doit fixer des objectifs de progression et des actions donc permettant d'atteindre l'égalité professionnelle. Elle doit porter à minima sur trois domaines d'action pour les entreprises si elles ont moins de 300 salariés et sur quatre domaines d'action pour les entreprises ayant plus de 300 salariés. Donc on a devant sur la slide la liste donc du coup des différents domaines voilà obligatoires. Donc à noter donc que ces objectifs et ces actions doivent être impérativement accompagnés donc d'indicateurs chiffrés. Donc c'est ce que prévoit l'article R2242-2 du Code du travail.
Et ces actions, elles doivent être portées ça peut être à l'échelle du groupe ou ça doit être par filiale.
On peut toujours faire les règles appliquées.
Ton micro, pardon.
Voilà. Le Code du travail prévoit d'une façon générale, désormais, que les négociations obligatoires peuvent s'organiser au niveau du groupe, pas nécessairement au niveau de l'entreprise. Il y a possibilité de faire remonter tout ça au niveau du groupe.
D'accord. Alors, s'il n'y a pas d'accord collectif qui a été donc signé au sein de l'entreprise, l'employeur a l'obligation de mettre en place un plan d'action en matière d'égalité professionnelle Il doit donc établir unilatéralement, donc chaque année, un plan d'action qui va être fondé sur des critères qui doivent être clairs, précis et opérationnels, afin de fixer donc des objectifs de progression et les mesures permettant d'atteindre ces objectifs. Donc, notamment donc l'évaluation par l'employeur donc des objectifs fixés et des mesures prises au cours de l'année écoulée. Donc la détermination des objectifs de progression, les actions à la fois quantitatives et qualitatives qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Encore une fois, donc il faut que les objectifs et les actions prévues donc soient comment dire soient chiffrées avec des indicateurs chiffrés. Et ce plan d'action donc devra être transmis par l'employeur à la DRETS et au greffe du conseil de prud'homme, accompagné donc du PV de désaccord pour les entreprises d'au moins 300 salariés. Et donc les salariés de l'entreprise donc doivent impérativement être informés donc du contenu du plan d'action en matière d'égalité professionnelle au sein de l'entreprise. Donc c'est une disposition d'ordre public prévue à l'article L2242-3 du Code du travail. Alors, les employeurs qui ne mettent pas en place un plan d'action peuvent être pénalisés financièrement à hauteur de 1% sur les rémunérations soumises donc aux cotisations pour les entreprises donc de 50 salariés ou plus. Donc, pour préciser, c'est en l'absence donc soit d'accord relatif à l'égalité professionnelle, soit à défaut de mise en place d'un plan d'action. Alors, sur cette diapositive, on a décidé donc d'inclure dans les obligations relatives à la mise en place de plans d'action les obligations issues donc de la loi égalité économique et professionnelle donc du 24 décembre 2021, qui a introduit donc de nouveaux quotas dans les postes de direction des entreprises, donc qui emploie au moins 1 000 salariés sur 3 exercices consécutifs. Donc, à noter que dans son question-réponse, le ministère du Travail a précisé que donc la notion d'exercice consécutif renvoie à l'exercice comptable de l'entreprise. Alors, donc ces dispositions sont prévues aux articles qui sont présents dans la diapositive. Donc, elle prévoit donc de porter la proportion de femmes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes à au moins 30% donc à compter du 1er mars 2026 et à au moins 40% à compter du 1er mars 2029. Et donc, les entreprises auront 2 ans, donc à partir de ces dates, donc pour se mettre en conformité. Et à l'issue donc de ce délai de 2 ans pour se mettre en conformité, soit les entreprises donc ont des résultats toujours en dessous donc de ces seuils, et dans ce cas il y aura possiblement donc une pénalité financière qui sera de 1% des rémunérations et gains versés aux salariés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai. Et donc voilà, donc cette pénalité prendra effet à compter du 1er mars 2031. Donc ensuite, s'agissant donc des instruments de mesure des inégalités donc prévus par le Code du travail, on a tout d'abord donc l'index égalité professionnelle. Donc à l'époque de son élaboration, donc le MEDEF a œuvré pour essayer de définir une méthodologie de l'index égalité la moins pénalisante possible pour les entreprises, en tout cas un moindre mal, et de trouver un juste équilibre dans le mode de calcul pour les entreprises. Donc de ces travaux, il en est ressorti l'index égalité donc que nous connaissons aujourd'hui, qui a été promulgué le 5 septembre 2018 donc par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et donc cet index prévoit l'obligation pour les entreprises d'au moins 50 salariés donc de calculer et publier chaque année, donc un index égalité, avant le 1er mars, sur le site internet donc, de l'entreprise, ou par tout moyen, ou le communiquer par tout moyen au salarié. Donc il s'agit donc d'une note sur 100 qui est calculée à partir de soit de 4 critères, donc pour les entreprises de 50 à 250 salariés, soit de 5 critères pour les entreprises de 250 salariés et plus. Enfin, non, de plus de 250 salariés. Donc vous avez devant les yeux, donc sur la diapositive, les 4 ou 5 critères de l'index, donc la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, par catégorie de poste équivalente et par tranche d'âge, l'augmentation donc pour les femmes, enfin la même chance d'augmentation pour les femmes que les hommes, la même chance d'obtenir une promotion, l'augmentation de salaire garantie au retour de congé maternité et la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations. Pour les entreprises ayant de 50 à 250 salariés, donc ayant uniquement 4 critères, donc il n'y a pas le critère sur la promotion pour les femmes et les hommes, et c'est le critère sur les augmentations qui passe à 35 points au lieu de 20. Donc à noter donc que le CSE donc doit être informé des résultats du calcul de l'index. Et donc ce calcul doit également être communiqué à la DRET. Alors quelles sont les conséquences donc d'un index inférieur à l'objectif fixé dans le Code du travail de 75 points sur 100? Donc tout d'abord, un délai de correction des écarts qui est prévu pour les employeurs, qui dispose de 3 ans pour se mettre en conformité avec cette obligation. Et si, au bout des 3 ans, si la valeur d'au moins donc 75 points qui est acquise pendant cette période de 3 ans, donc il y a un nouveau délai de 3 ans qui est accordé, donc à compter de l'année où est publié un résultat à nouveau inférieur à 75 points. Donc c'est ce qui est prévu donc à l'article L1142-10 du Code du travail. Et donc, si la note est toujours inférieure à 75 points au bout de 3 ans à partir de la première publication de l'index égalité, dans ce cas, une pénalité peut être appliquée aux employeurs d'un montant de 1% de la masse salariale. Donc, c'est le cas en l'absence de publication de l'index par les entreprises. Enfin, sur la publication des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes. Donc, c'est encore donc la loi Rixin donc du 24 décembre 2021, désormais dans le Code du travail. Elle prévoit donc une obligation également de publication annuelle, donc au plus tard également le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, donc des résultats chiffrés sur la part de femmes et d'hommes au sein des instances dirigeantes et des cadres dirigeants. Donc ces informations sont également mises à disposition du CSE au sein de la BDESE. Inès, je te laisse prendre la parole.
Pour rebondir sur l'index par rapport à la question que tu nous avais posée, Gauthier, il y a un calculateur en ligne sur le ministère du Travail pour calculer son index égalité professionnelle. Voilà. Donc là, je vais vous présenter une espèce de mesure qui est plutôt volontariste. Pour le coup, c'est pas du tout une obligation. C'est le label égalité professionnelle qui a été créé par le gouvernement en 2004. Donc l'objectif est le même, c'est de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la fois dans le secteur public et le secteur privé, et donc de mettre en avant l'exemplarité et les bonnes pratiques des organismes qui candidatent et qui l'obtiennent. La structure qui candidate, elle est soumise à un audit d'évaluation qui est conduit par l'AFNOR, selon 2 cahiers des charges qui ont été différenciés pour le secteur privé, un cahier des charges de moins de 50 salariés et un cahier des charges donc, qui est plutôt simplifié, et un cahier des charges de plus de 50 salariés, qui est plus exhaustif. Et aujourd'hui, enfin depuis l'année dernière, il est possible de candidater au label Alliance, c'est-à-dire l'alliance entre le label Égalité professionnelle et le label diversité. Ils ont créé du coup, ils ont fusionné les cahiers des charges pour permettre aux structures de candidater plus facilement. Ces cahiers des charges, ils portent sur trois piliers principaux, c'est-à-dire les actions menées dans l'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle, donc principalement la communication, la sensibilisation, les partenaires locaux et autres sur ce sujet, la gestion des ressources humaines et le management. Donc là, c'est les questions d'égalité salariale, rattrapage, enveloppe de rattrapage salarial, les promotions, égalité promotion, augmentation, et puis aussi la mixité des métiers et des secteurs. Et puis enfin, l'accompagnement de la parentalité dans le cadre professionnel. Et là, c'est plutôt porté sur le congé paternité, et puis les entretiens de retour de congé maternité, l'égale promotion en cas de maternité et autres. Donc vous retrouverez les cahiers des charges qui sont disponibles sur le site du ministère de l'égalité, en relation avec ce label. Si l'organisme dans son dossier de candidature répond aux critères du cahier des charges, il est soumis à une validation donc d'une commission de labellisation qui est composée de trois collèges, des représentants de l'État où il y a notamment le ministère du Travail, le ministère de l'Égalité et autres, les syndicats de salariés et puis les organisations patronales. Et je vous informe que le MEDEF siège au sein des commissions de labellisation du label Égalité et du label Diversité également. Ce label, il est attribué pour une durée de 4 ans. Son maintien et son renouvellement sont soumis, donc c'est tous les 2 ans à chaque fois, sont soumis à une procédure de contrôle. En fait, c'est vraiment d'avoir une démarche d'amélioration. Si l'organisme a son label depuis longtemps, alors au fur et à mesure, l'exigence de la commission va être bien sûr plus importante. Sachant que il y a aussi un effort d'échange de bonnes pratiques et de visibilisation des labellisés, puisque l'AFNOR, conjointement avec les membres de la commission de labellisation et le ministère de l'Égalité, a créé un club des labellisés qui se réunit une fois par mois et qui, du coup, permet l'échange de bonnes pratiques et de visibiliser ce que l'ensemble des labellisés du secteur public et privé mettent en place, et puis les mesures originales aussi pour atteindre l'égalité professionnelle. Dans le cadre de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive qui a été organisée par le MEDEF il y a 2 semaines, le label diversité et le label égalité ont été présentés par l'AFNOR et le ministère du Travail. Donc vous pourrez retrouver ce webinaire sur le site de la série, comme on l'appelle. Donc c'est la série, SERI.org. Voilà.
Et au niveau de ce label, toi tu vois qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui candidatent pour
De ces dernières années, c'est clairement majoritairement de la fonction publique, puisqu'il y a une obligation pour l'ensemble des ministères de candidater au label égalité. Il y a beaucoup de grosses entreprises, et c'est pour ça qu'on veut aussi s'en faire le relais de ce label, c'est que les petites entreprises ont tendance à moins postuler, puisqu'il y a quand même un cahier des charges qui était conséquent, mais ce cahier des charges a été mis à jour, notamment simplifié pour les cahiers des charges des moins de 50 salariés. En fait, l'objectif vraiment, c'est valoriser les pratiques, mais aussi s'améliorer. Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse accompagner les labellisés quand ils postulent, bien sûr, de se mettre à niveau du cahier des charges. Donc, il y a tout un accompagnement d'AFNOR, et puis ensuite de s'améliorer d'année en année. Donc, l'objectif, c'est pas d'arriver en étant parfait sur l'égalité femmes-hommes, mais c'est vraiment d'avoir un accompagnement dédié. On aimerait que, bien sûr, qu'il y ait de plus en plus de labellisés du secteur privé et notamment de petites entreprises.
Ouais, donc faut pas être timide et je mets pas en place d'action et donc c'est pas pour moi, mais au contraire se dire que il y a des choses à mettre en place et je peux être accompagné par le MEDEF et les MEDEF territoriaux et les fédérations professionnelles pour y parvenir.
Exactement, et puis c'est de la démarche en temps long. Il y a des labellisés qui mettent un an et demi à avoir leur label parce qu'ils sont accompagnés sur la démarche, et puis ensuite 2 ans après le suivi, 2 ans après le renouvellement, et ainsi de suite. Enfin, c'est vraiment de la démarche en temps long. Il y a rien de pressé, mais en tout cas c'est un bon outil d'aide.
D'accord. D'ailleurs, si vous, vous êtes intéressé, vous pensez qu'on peut organiser une session de présentation de ce label et des actions, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat et ouais, on verra ce qu'on peut faire.
Et j'intégrerai du coup le lien et les infos sur la slide. Voilà, super. En hyperlink.
En parlant justement d'aide aux outils des entreprises, je voulais revenir une minute sur l'index égalité, du coup, parce qu'il existe plusieurs outils afin d'aider les employeurs à calculer leur index. Donc notamment un simulateur en ligne index egapro.travail.gouv, donc qui permet donc à partir de les données de l'entreprise donc de calculer l'index et les indicateurs, mais également de les transmettre à l'administration. Il y a également un dispositif pour les entreprises de 50 à 250 salariés, donc qui prévoit une formation en ligne, donc qui est accessible via le site internet du ministère du Travail. Et enfin, pour préciser que donc des référents égalité salariale entre femmes-hommes donc sont présents au sein des DRETS. Voilà. Merci.
Donc là, on va faire un bilan du coup de l'application de ces règles. Je vais passer rapidement sur les données, puisque je pense que la partie sur les futures réformes est la plus importante. Simplement pour vous dire que voilà, on observe une amélioration globale des chiffres relatifs à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, donc notamment dans les PME-TPE, où il y a une augmentation en moyenne plus importante des salaires non cadres chez les femmes que chez les hommes, ce qui pourrait constituer un effet voilà, à la marge de rattrapage des inégalités salariales. Les inégalités salariales, donc l'écart salarial moyen entre les femmes et les hommes a baissé, et puis on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui consacrent des enveloppes de rattrapage, notamment des écarts, ce qui donc 30% des entreprises en 2023, ce qui est quand même important. Il y a une progression aussi de la part de femmes dans les niveaux, parmi les cadres supérieurs. Donc on arrive presque à 30%. En 2023, on a pris 2% en 2022. Donc voilà, on se rend compte qu'on va dans le bon sens, dans ce niveau-là, même si bien sûr il reste des inégalités et du progrès à faire, notamment sur les questions de mixité des métiers qui impactent forcément l'égalité salariale femmes-hommes. Sur l'index plus particulièrement, on a aussi une amélioration des résultats donc depuis 2019, depuis sa mise en place. Les résultats, ils sont en progression constante. En 2023, il y a 72% des entreprises concernées qui ont publié leurs notes au 1er mars, qui est en forte augmentation, par exemple, en comparaison à 2020, où il y avait 54% des entreprises qui l'avaient fait. Il y a également une augmentation au-delà du pourcentage d'entreprises qui le publient, mais également de la note obtenue par les entreprises. Donc en moyenne, elle s'établit à 88 sur 100 en 2023, donc elle a augmenté de 4 points depuis 2020. Et c'est également vrai pour les notes moyennes des entreprises de plus de 1000 salariés, qui a pris pour le coup 7 points entre 2019 et 2023 pour atteindre 89,7 sur 100. Aujourd'hui, on a seulement 2% des entreprises qui ont une note de 100 sur 100. Donc, on voit que malgré une forte augmentation, il y a quand même, voilà, c'est quand même plus compliqué d'atteindre le maximum de points. Et il y a 77 entreprises à date qui ont une note inférieure à 75 points depuis 2020. Et comme, si on se souvient de ce que Florian a dit plus tôt, vu que c'est 3 ans avec une note inférieure à 75 points qui peut soumettre les entreprises à une pénalité financière, donc elles pourraient faire l'objet d'une sanction cette année. Concernant la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes, donc communément appelée la loi Rixin, datant de 2021, donc il y a des efforts à fournir s'agissant de l'égalité femmes-hommes, notamment au sein des COMEX, mais il y a eu de nombreux progrès ces dernières années. En 2023, il y a quasiment la moitié des entreprises qui ont déclaré la représentation, la division en femmes-hommes au sein de leurs instances dirigeantes. Il y a une hausse globale de la féminisation des instances qui est plus marquée dans les conseils d'administration du fait que les quotas ont également été mis en place bien en amont via la loi Copé-Zimmermann en 2011. Donc on se place la France parmi les leaders de la parité dans les organes de direction, et puisqu'en fait dans les conseils d'administration du SBF 120 on a quasiment la parité, donc 46,3% de femmes au sein de CCA, et on est donc le premier pays devant les Pays-Bas, l'Italie ou le Danemark. En revanche, dans les comités exécutifs, puisque les quotas, d'ailleurs, ont été mis en place il y a très peu longtemps, on est en bonne voie, on est à 26,4, on n'est pas à 30, et comme l'a dit Florian tout à l'heure, ce sera en 2026 qu'on aura une obligation de quota de 30%, donc il y a encore des efforts à faire. En revanche, sur les GAPRO en général, on est plutôt bien placé, puisqu'on est en première position. Dans un classement, donc le classement qui est le classement Equilip, qui s'appuie sur 19 critères d'égalité et qui a comparé 3787 entreprises cotées en bourse. Donc voilà, on voit qu'il y a des progrès à faire sur la représentation des femmes dans les conseils exécutifs. En revanche, on est quand même de bons élèves au niveau international. Maintenant, sur le bilan des des négociations en matière d'égalité, il y a donc on l'a écrit, des progrès, mais quand même des disparités selon la taille des entreprises. Donc, plus la taille de l'entreprise est importante, plus l'engagement de négociation et la conclusion d'accord augmente. Donc, ça vaut pour tous les thèmes de négociation, dont l'égalité professionnelle. En 2021, il y avait un engagement d'une négo sur l'égalité professionnelle par 4,3% de l'ensemble des entreprises, qui représentent environ 23% des salariés en France. Il y a eu 3,1% d'accords conclus par les entreprises qui couvrent du coup 17,8% des salariés en France. Et en fait, sur ces 3,1 accords, c'est ça, il y a 71,6% des entreprises qui ont abouti à un accord sur ce thème. Concernant les entreprises qui ont engagé des négociations collectives, tout thème confondu, abordant le thème de l'égalité salariale en 2021, il y en avait 25,9%. Et donc, si on rentre dans les détails, mais vous retrouverez tous ces chiffres et les sources sur le PowerPoint. Mais donc, ça représente 37% des entreprises ayant des délégués syndicaux et 13,3% pour les entreprises ayant des élus seuls.
Alors, s'agissant maintenant des positions du MEDEF hein, sur ces constats et les messages qu'on porte en général quand on est sollicité sur ces questions-là, notamment par les pouvoirs publics, alors nous, on ne manque jamais de dire que les résultats sont en progression, hein, évidemment, à la fois sur les chiffres, sur l'égalité salariale, sur l'application de l'index et sur les résultats de l'index et sur les obligations liées à la loi Rixin. On ne manque non plus jamais de rappeler que la réglementation, comme on vous l'a dit, est dense, complexe, difficilement lisible et peu cohérente, puisque les dispositions sont accumulées au fil du temps, je l'ai déjà dit, sans grande cohérence et sont disséminées sans aucune logique dans le Code du travail, ce qui rend leur application particulièrement compliquée, parce qu'elles s'articulent les unes avec les autres, mais encore faut-il identifier ces règles d'articulation. Et par ailleurs, on sait que la préparation du calcul de l'index est particulièrement chronophage pour les entreprises. Alors, ça ira peut-être mieux avec au fil du temps, mais la mise en place a été assez compliquée, notamment pour les petites entreprises, même les grosses parfois. Donc, s'agissant de l'index, on va voir tout à l'heure qu'il y a des projets de le modifier alors qu'il vient d'être mis en place. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est très récent et qu'il serait prématuré de le modifier, puisque c'est un instrument de mesure. Et changer le thermomètre pour mesurer des progrès alors qu'on a fait simplement une première mesure, c'est pas une bonne chose. Et voilà, donc on aurait besoin de l'appliquer plus longuement sans le modifier. Et puis par ailleurs, on va voir tout à l'heure qu'il faudra peut-être le modifier pour le mettre en conformité avec une directive européenne sur la transparence des rémunérations. Mais là, Florian va vous détailler ce point. Mais nous, on pense qu'il faut prendre le temps hein, de faire cette transposition et laisser à l'index le temps de vivre en l'état. Et puis, on rappelle également constamment que la lutte contre les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes ne peut pas reposer exclusivement sur les entreprises, parce que c'est un problème sociétal beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. C'est un problème de mentalité, de mixité des filières, et que ça repose plus largement sur l'éducation, sur la sensibilisation de la société à ces questions-là, et les entreprises ne peuvent pas tout faire elles toutes seules, et que des mesures coercitives qu'on fait peser sur les entreprises ne sont pas la solution et la panacée pour améliorer les problèmes d'inégalité homme-femme. Voilà pour les positionnements du MEDEF.
Sur la directive sur la transparence des rémunérations, qui a été officiellement publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 17 mai dernier, et qui est entrée en vigueur le 7 juin, il a pour objectif de favoriser l'égalité et la justice sur les lieux de travail, et propose des mesures visant à réduire les disparités salariales entre les femmes et les hommes, et à renforcer la transparence des rémunérations au sein des États membres de l'Union européenne. Alors, petite précision, la directive n'est pas applicable en l'État, il appartient aux États membres de la transposer dans le droit interne, au plus tard le 7 juin 2026, et ce sont les textes de transposition français qui détermineront les obligations incombant réellement aux employeurs. Précisons également que la directive s'adresse à tous les employeurs, donc ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé, et elle couvre donc l'ensemble des salariés, y compris les fonctionnaires et les candidats à un emploi. Donc cette directive donc impose aux employeurs d'adopter une approche proactive en ce qui concerne plusieurs domaines. Donc tout d'abord l'évaluation de leur structure salariale, la réalisation d'audits sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, la promotion de la transparence dans les politiques de rémunération. Et donc on va voir donc les principaux impacts sur le droit du travail en matière de rémunération. Donc il y a tout d'abord l'article 5 de la directive qui impacte directement les rémunérations, puisqu'il prévoit donc une transparence des rémunérations avant l'embauche en fournissant aux candidats donc une fourchette de rémunération et l'interdiction également donc de rechercher la précédente rémunération du salarié avant son embauche. Et précision également donc que l'employeur ne doit pas demander non plus aux candidats son historique des rémunérations. Ensuite, l'article 6 donc de la directive donc prévoit que les employeurs mettent à la disposition de leurs salariés donc d'une manière qui doit être facilement accessible donc les critères qui sont utilisés pour déterminer la rémunération, donc les niveaux de rémunération et la progression de la rémunération des salariés. Donc ce sont des critères donc qui doivent être objectifs et non sexistes. Précisons toutefois donc que la directive donc laisse aux États membres la faculté d'exempter les employeurs de moins de 50 salariés de l'obligation relative à la progression de la rémunération. En revanche, donc aucune latitude n'est prévue pour les critères relatifs à la détermination de la rémunération des niveaux de rémunération. Ensuite, concernant donc l'article 7 de la directive, il prévoit que les salariés ont le droit de demander et de recevoir par écrit des informations sur leur niveau de rémunération individuel et sur les niveaux de rémunération moyens qui doivent être ventilés par sexe pour les catégories de salariés en accomplissant le même travail qu'eux ou un travail de même valeur. Donc comme vous voyez, ça va être assez complexe à mettre en œuvre dans le droit français. Donc les employeurs doivent informer tous les salariés donc une fois par an de leur droit à recevoir des informations ainsi que les mesures que ceux-ci doivent prendre pour exercer ce droit. Et la directive prévoit que les salariés ne doivent pas être empêchés de divulguer leur rémunération aux fins de l'application du principe d'égalité des rémunérations. Donc l'article principal, l'article majeur donc de cette directive européenne, donc l'article 9, l'obligation pour l'employeur de communiquer sur les données relatives à l'écart de rémunération. C'est d'ailleurs cet article donc qui va le plus avec l'article 10 également qui vont impacter, percuter en fait notre index en droit français. Donc avec une obligation pour l'employeur donc de fournir des informations sur plusieurs critères qui sont assez précis. Hein. L'écart de rémunération et le niveau des composantes variables ou complémentaires, l'écart de rémunération médian, et pareil, avec encore une fois à chaque fois les niveaux des composantes variables ou complémentaires, donc la proportion de travailleurs femmes et hommes qui bénéficient de composantes variables ou complémentaires, la proportion de femmes et d'hommes dans chaque quartile, et l'écart de rémunération par catégorie de travailleurs et ventilé par salaire. Donc il y a un calendrier d'application de ces obligations selon la taille de l'entreprise, donc avec des échéances différentes. Donc pour les entreprises de plus de 250 salariés, l'obligation entrera en vigueur au plus tard le 7 juin 2027, puis ce sera une obligation annuelle. Pour les entreprises de 150 à 249 salariés, ce sera au plus tard le 7 juin 2027, puis ensuite tous les 3 ans. Pour les entreprises de 100 à 149 salariés, également, ce sera le 7 juin 2031, puis tous les 3 ans. Et enfin, donc pour les entreprises de moins de 100 salariés, Il n'y a pas d'obligation de prévu, mais toutefois, la directive offre la possibilité aux États membres donc, de fournir ces informations à titre volontaire, la possibilité pour les États membres de l'exiger donc, en vertu de leur droit national, et également prévoit la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de fournir ces informations à titre volontaire. Donc à noter que les représentants du personnel donc, devront obligatoirement avoir accès aux méthodes de calcul de ces indicateurs prévus à l'article 9. Bon. Juste pour dire que l'article 10 prévoit donc une évaluation conjointe des rémunérations avec les représentants du personnel. Il est prévu donc les résultats ne sont pas entre guillemets satisfaisants au sens de la directive, donc un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes d'au moins 5% dans une catégorie de salariés, qu'il y a des différences qui ne sont pas justifiées de façon objective et non sexiste, et que la situation n'a pas été régularisée par l'employeur dans les 6 mois. Alors, comme on l'a déjà dit, donc la directive européenne va avoir un impact majeur sur l'index égalité français. Ce n'est pas la même logique ni la même approche entre les deux dispositifs. L'un prévoit un calcul avec un pourcentage d'écart de rémunération, donc la directive, tandis que l'autre prévoit un score sur 100 points calculé par les entreprises en fonction d'indicateurs. Donc, au final, la directive offre assez peu de marge de manœuvre au regard des dispositions nationales déjà existantes, que ce soit la BDESE ou l'index égalité. Et au final, la directive va encore plus loin que l'index sur certains paramètres, puisqu'il y a des informations qui sont renforcées par rapport à l'index ou la BDESE. Voilà, il y a une nouvelle étape, comme on l'a vu, qui a été introduite avec l'évaluation conjointe, avec les représentants.